L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Le soir vient de tomber sur la vallée de la Seine. Nous sommes à Croissé, près de Rouen, le 19 septembre 1851. Un écrivain pénètre dans son cabinet de travail, il a presque 30 ans. Oh, il est loin d'être célèbre. Rondouillard, le ventre lesté, crâne dégarni, les yeux pochés. Il s'approche du fauteuil bleu. La nuit s'invite dans les 5 fenêtres qui s'ouvrent sur le jardin et le fleuve. Sa pièce à lui est vaste, basse de plafond. Il sent monter l'humidité de la Seine qui coule en bas. Cette humidité, qu'elle plaît. Il appelle un domestique, lui demande d'allumer du feu ici et dans sa chambre, partout. L'homme avance la main vers une plume d'oie qu'il trempe dans l'encrier, de l'encre de sèche, très noire. Il ne tolère que celle-là. Gustave Flaubert est un maniaque. Sous lui, dans la roche, une immense cave où son père, médecin en chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen, a accumulé jusqu'à sa mort plus de 1000 bouteilles de vin. Devant lui, des rayonnages pleins de livres. Ça sent le papier et le silence. Gustave Flaubert a le vertige du papier. Sur sa table, ses plumes taillées forment comme un buisson d'épines où il va s'écorcher les mains et le cœur. Il se compare volontiers à son père, le grand chirurgien Flaubert avec son scalpel. Mais lui aussi a un scalpel. Son scalpel à lui, c'est sa plume. Il va disséquer ses personnages. Ce soir du 19 septembre, il se lance dans l'écriture de son roman « Madame Bovary ». Non pas Emma Bovary, mais Madame Bovary, car c'est d'une femme mariée dont il veut tracer le destin. Il va se battre avec chaque mot, il va les triturer, les malaxer et, dans son gueuloir, crier, hurler chaque phrase. Rude gymnastique, dira-t-il. Il retourne, farfouille, creuse, épuise son style. Et puis lui aussi va s'épuiser. 4 ans et demi de travail. Plus de 3000 feuillets noircis. 4 à 5 jours d'écriture pour une seule page. Un sacré nom de Dieu de roman, répétera-t-il. Nous sommes le 19 septembre 1851. Il est 23h. C'est l'heure H de mon histoire. Pour écrire son roman, Flaubert va s'inspirer d'une histoire vraie. L'histoire d'un couple qui s'est déroulée pas loin de Rouen, dans la campagne normande. Dans une famille proche de la sienne, le drame réel des époux Delamarre. Il va en faire un chef-d'œuvre. Ce sont ses amis qui lui ont suggéré ce sujet bien de son époque. T'auras pas besoin d'inventer l'action, t'auras qu'à soigner ton style. Et puis ils sont revenus à la charge. Écris donc l'histoire de Madame Delamarre, qui est bien belle. L'histoire de Delphine Delamarre, elle est bien belle. Elle est surtout bien triste. Flaubert va penser à elle à chaque page. Il aura beau affirmer que son roman est une histoire totalement inventée, qu'elle n'a rien de lui. Mensonge. Ou plutôt, discrétion, respect, pudeur de sa part. Car ce drame et ce couple Delamarre, les parents du romancier les ont bien connus. Flaubert aussi. Toute la famille Flaubert. Sous sa plume, le souvenir de Delphine Delamarre finira par mettre au monde Emma Bovary. Quelle fut donc sa destinée pour inspirer un tel chef-d'œuvre ? Véronique Delphine Couturier naît le 17 février 1822 en Normandie rurale. Ses parents s'installent à la ferme du Vieux Château, à Blainville-Crevon, où elle grandit avec sa sœur et ses 2 frères. Elle paraît douée et intelligente. On l'appelle plus volontiers Delphine. Soucieux de lui donner une bonne éducation, ses parents la placent au couvent des Ursulines à Rouen, dès qu'elle atteint ses 13 ans. Loin de la vie paysanne qu'elle exècre, elle acquiert une instruction. Elle apprend la danse, l'aquarelle, le dessin, à toucher le piano, à chanter des berceuses, à lire de la poésie, à monter à cheval. Mais à 16 ans, Le décès de sa mère interrompt ce bonheur. Elle doit retourner à la ferme, auprès de son père, qui trouve sa pension pour le moins ruineuse. À Blainville, Delphine retrouve l'univers sordide, l'avenir borné, la médiocrité paysanne. Elle à qui les nonnettes ont parlé de Jésus comme d'un fiancé, un époux, un amant céleste. Elle qui ne pense qu'à s'élever vers de douces rêveries. Elle qui a trouvé dans ses lectures un univers d'amour chimérique mais grisant. C'est alors qu'en 1838, le 6 janvier, Eugène Delamarre surgit dans sa vie. Il arrive à la ferme pour soigner le père qui s'est cassé la jambe. Il n'est pas médecin. Il n'est qu'officier de santé, n'ayant pas réussi son examen final de médecin. Il exerce sa profession dans le petit bourg de Ry, à quelques 6 km de Blainville. Il a 26 ans, de taille moyenne, d'intelligence moyenne également, mais assez beau garçon, finement vêtu. Autrement mieux habillé que les bouseux du village, pense Delphine. Très vite, la jeune fille de 16 ans apprend qu'il est veuf depuis seulement 4 semaines. Et alors, elle se met à rêver. À quoi rêvent donc les jeunes filles en fleurs, à votre avis? Et Eugène revient plus pour Delphine que pour la jambe du père couturier. Plus que de nécessaire, en tout cas. À l'inverse de sa première épouse, laide, sèche, acariâtre, aux pieds froids, Delphine est jeune, fraîche, charmante. Alors il est séduit. Il raconte ses études à Rouen, son apprentissage d'officier de santé, sous la direction d'un certain docteur Flaubert, le père du romancier. Il a déjà une belle clientèle à Ries et aux alentours et il se perfectionne sans cesse. Eugène tombe sous le charme de Mademoiselle Couturier et elle se verrait bien en épouse de médecin. Mais son vieux matois de père souhaite comme gendre un costaud, prêt à reprendre sa ferme et puis il y a le problème de la dot. Monsieur Delamarre ne sera pas trop exigeant. Delphine exulte, trouvant enfin l'issue rêvée pour fuir son univers insignifiant. Le 29 septembre 1838, Delamarre demande officiellement sa main et l'embrasse sur le front comme un grand timide. Elle sait ce qu'elle veut, la Delphine. Elle est impatiente. Oui. Mais il faut attendre la fin du deuil d'Eugène. Oui, mais l'ex-belle-mère d'Eugène traficote de sombres affaires d'héritage. Ah ben, peu importe. Tout en préparant son trousseau, elle imagine ses épousailles. Comme dans ses lectures romanesques, elle désire se marier au flambeau, en privé, le soir. Et elle a lu que cela faisait bon genre. Le père, lui, ne pense qu'à ripaille et ne veut pas vexer la famille. On coupe donc la poire en deux. Mariage civil le 7 août 1839, à 8h du soir à la mairie. Le lendemain matin, dans la collégiale gothique de Blainville-Crevon. De retour de la messe, le long cortège de la suite sinue par les champs et les vergers, piétinant les blés mûrs. En tête, un ménétrier racle son violon. Mais le repas éteint les rêves de la mariée. Une bombance de 10 heures, une grande bouffe carnée avec des paysans enivrés et polissants. La nuit de noces de l'épouse n'est guère plus enchanteresse. Ses sens ne sont pas encore éveillés. Le surlendemain, elle fait son entrée tant attendue dans le bourg de Ry. La route lui paraît interminable. Elle a l'impression d'arriver dans un bout du monde, elle qui s'attendait à une petite ville vivante. Quand elle pense qu'il y a peu, 4 ans, pour être précis, il n'y avait encore aucune route pour arriver à Ry. Sur le seuil de la maison, elle hésite à franchir sa nouvelle vie. Tout le monde veut voir la nouvelle femme du docteur. Ce sera chose faite tout le long de la rue principale et à l'hôtel de Rouen. C'est l'auberge principale du village. Eugène y invite sa jeune épouse. Il y a là des gens qui attendent la diligence du soir. Il y a là l'obséquieux pharmacien Guillaume Jouanne qui fournit en médication la clientèle de Delamarre. Dès le lendemain, Delphine juge que son statut de femme de médecin exige une garde-robe digne du rang qu'elle a tant appelé de ses voeux. Elle s'abonne à des revues de mode, cherche une couturière, s'occupe des factures de son mari, se verrait bien en balade dans un beau Tilbury et, en femme déjà accomplie, renouvelle la décoration pâle et poussiéreuse. Euphorie de la lune de miel. Mais déjà, elle estime que sa vie manque de bonheur et de classe. Eugène rentre tard, fourbu de ses visites à domicile. Il avale son repas, monte se coucher, commence à ronfler. Alors que elle se fait belle et se parfume pour la nuit, pour l'amour. Où sont les langueurs promises, les exaltations du cœur et de la chair? Eugène est paisible. Pato, il la croit heureuse et ça lui suffit. L'amour de temps à autre avec un rite tristement identique. C'est donc ça, le mariage. En se penchant à sa fenêtre, elle voit s'étirer l'ennui de ce bourg où tout le monde s'épie. Au bout de la grande rue, là où les halles et l'église clôturent le centre du village, où donc, se demande-t-elle, mène cette route qui s'en va caracoler. Elle essaye de prendre ses repères. Okay, là-bas, c'est Rouen, la ville, les plaisirs inconnus. Elle l'étouffe ici. Elle attend quelque chose, incapable de mettre un mot sur ce désir. Ou alors, le sachant très bien, peut-être trop bien. Le désir, celui qui soudain pulse au ventre. Le désir semble lui apparaître un matin de mai dans l'embrasure de sa fenêtre ouverte. Passe un grand jeune homme blond qui soulève son chapeau pour la saluer. C'est le nouveau clerc de notaire, venu parfaire sa formation chez Maître Leclerc, qui dirige l'étude juste à côté. Il a pris une chambre chez l'apothicaire. Ce Narcisse Bottet lui apparaît autrement plus désirable que son époux, banal. Il séduit au premier regard. Il a vécu des années joyeuses à Paris. Elle apprécie son profil délicat, ses traits gracieux et sa toilette recherchée. Et puis surtout, ses yeux rêveurs. Elle va lui être présentée un soir chez le pharmacien. Il a 23 ans. Il lui avoue n'aimer que les poètes parce qu'ils révèlent l'âme, les sensations, les émotions. C'est là que passent les sentiments entre deux rimes. Il lui propose de lui lire les vers les plus tendres de ses poètes préférés. Lamartine, entre autres. Delphine a les jambes qui défaillent. Ainsi donc, il y a des hommes qui éprouvent ce qu'elle-même ressent. Il lui dit aimer les promenades romantiques. « Et connaissez-vous de beaux chemins ?» questionne-t-il. « Le long de la rivière, derrière ma demeure au fond du jardin, il y a un perron où coule beaucoup de poésie quand on longe le cours du Crevon, ose-t-elle murmurer. À partir de cette soirée, on verra de plus en plus l'épouse du docteur au bras du jeune clerc. Alors, on se met à chuchoter dans le village. Elle pense. Est-ce donc ça, l'amour? Le clerc finit par aller lui rendre visite, lui faire la cour. Un livre de poésie à la main, il lui fait la lecture. Et qu'importe si le mari revient à l'improviste. Joyeux, Delamare salue le jeune homme avec effusion. Il n'est pas jaloux. Un soir, quand ils ne sont que deux, Narcisse tente sa chance, lui baise la nuque. Elle le traite de fou, mais se met à rire. Quand il lui avoue son amour, agenouillé, le cœur de Delphine explose. Mais il s'enhardit, soulève délicatement sa robe à volant, son jupon dentelé. Le jeune homme ne veut plus attendre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous plonge au 19e siècle. Flaubert est dans son cabinet de travail. Il a presque 30 ans. Il est loin d'être célèbre. Et ce soir du 19 septembre 1851, il s'apprête à écrire un de ses romans qui passera les épreuves du temps, Madame Bovary. Mais qui se cache réellement derrière ce personnage de fiction ? Comme toute femme au début d'une liaison, elle hésite, elle se raisonne, elle essaie de savoir où elle en est, considère ses sentiments, mesure ses désirs. Avant de trouver la réponse en elle, elle se rend auprès du curé de Ry, l'abbé Grenier. Elle monte à l'église pour le rencontrer, lui confesse ses souffrances morales. Le curé ne comprend rien, pontifie sur les douleurs physiques. Dialogue de sourds. Alors, elle se fait plus sincère et lui avoue qu'elle craint de succomber au péché d'adultère. Ça a encore un sens à l'époque. « Avez-vous fauté ?» demande l'homme d'église. Elle répond vaguement, ne parle que de rêves, de pensées. « Allez en paix !» conclut l'abbé Grenier. « Tout compte fait, pense-t-il, ce monsieur Delamare ne fréquente pas mon église. Il doit être libre penseur, donc, désolé madame, on m'attend au presbytère. » Comme beaucoup d'endroits à Ry où se déroule l'existence authentique de notre Delphine, le lieu où se passe cet entretien existe toujours. On peut le revivre tel qu'il a eu lieu sous le magnifique porche en bois de la petite église. Ce pur chef-d'œuvre de huchier normand du XVe siècle est ici appelé « cactoire », car il permettait aux gens sortis de la messe de se raconter les derniers potins du village. Certaines commères et ont dû sûrement y échanger quelques allusions à l'inconduite de la femme du médecin. On peut encore imaginer Delphine dans la rue qui descend de l'église vers la rue principale et les halles. On la devine troublée par l'incompréhension de l'homme en soutane. Elle n'a que 20 ans et se demande qui l'empêcherait de prendre un amant. Mais le destin va déjà brouiller ses rêves. Le jeune clerc va s'inscrire à la faculté de droit de Paris afin d'y continuer son cursus. Sa session débute le 11 novembre 1841. Il vient faire ses adieux à la belle madame Delamare. Adieu tout en non-dit, en effleurement, en doigts croisés, décroisés, abandonnés et en larmes. La voilà seule, avec un immense vide en elle. Doit-elle rester là, dans ce vide ? Il n'y a dans ce vide, entre les quatre murs, que l'horloge et son tic-tac. Ses meubles montés avec des chevilles de chêne. Des bahuts, un vaisselier, meubles en merisier, châtaignier ou sapin, et avec son cadran en émail, l'horloge à la normande, héritage d'Eugène qui égrène des heures sans saveur. Les chandeliers sont de cuivre jaune. Jaune comme les cuillères qu'elle a achetées parce que cela fait riche. Mais le couple ne s'en sert pas. Dans la lampe à huile trempe une mèche de coton qu'elle allume le soir avec un tison pris dans l'âtre, en attendant son mari, qu'elle n'a plus envie d'attendre. L'aspect navrant de cette vie rurale, le manque d'espace anesthésie ses attentes. La maison des Delamare est conçue comme toutes les autres en Normandie, pour cacher la vie intérieure au regard des passants. Tout doit être dissimulé. Delphine, elle, rêve d'échapper, de grand air, de chevaucher, d'ombrelles et de balades, comme celle qu'elle a vécue au bras du jeune Narcisse, désormais à Paris. Elle entend encore en elle le ruissellement du crevon, comme des accords de piano. Ce vide, elle va désormais le combler en achats et en caprices. Du citron pour se nettoyer les ongles, des plats raffinés à l'auberge, des robes et des écharpes auprès des marchands ambulants. Car à Ry, comme partout dans cette Normandie rurale, les produits manufacturés viennent de faire leur apparition. Calicots venus de Rouen, étoffes nouvelles de laine, soie ou coton, parfois même venues de Paris, le rêve. Ces commis voyageurs font l'article à domicile ou dans les auberges et proposent des « nouveautés qui embellissent les dames », disent-ils. En mars, Delphine se croit enceinte, ce que confirme son mari. Elle souhaite un garçon. Nouvelle désillusion, ce sera une fille. Elle s'évanouit en l'apprenant, la nuit de l'accouchement, le mardi 29 novembre 1842. Alice Delphine est née. Un amour est mort. Très vite, elle met son enfant en nourrice, chez la femme du menuisier de Ry, la mère Rollet. C'est le moment que choisit Eugène pour lui annoncer qu'ils sont complètement désargentés. Le coût du mariage, les travaux dans leur maison, l'achat d'un nouveau mobilier, du cabriolet et des toilettes de Delphine ont épuisé la dot. ne reste plus rien. Dès lors, ils vont commencer leur descente aux enfers, que dévoilent les archives notariales. Dette de 6 000 francs en juillet-août 1843, de 1 000 francs en juillet 1845, de 1 500 en novembre et de 1 200 en mai 1847. Alors, que reste-t-il encore à Delphine pour rêver ? Il surgit un jour de marché à son domicile. Cette fois, il se nomme Louis Campion de la Huchette. Visage basané, bien bâti, sûr de lui, en habit de velours. Il impressionne Delphine. Il est venu avec son domestique pour qu'on le saigne. Delphine aide son mari en tenant la cuvette. Mais c'est le hobereau dont elle sent le regard posé sur elle qui la dévore des yeux, qui la déshabille presque. Et si... Elle n'ignore pourtant pas qu'il a une piètre réputation à Harry. Il se dit de la Huchette sans être noble. C'est juste le nom de sa gentilhommière sur la route de Rouen. Il a eu des déconvenues financières. Il a une réputation d'homme à femme. Il fréquente à Rouen des danseuses pour lesquelles il dilapide ses derniers avoirs. Malgré cela, quand il quitte la maison des Delamare, il n'a qu'une pensée en tête. La femme du docteur, je la posséderai. Coûte que coûte, il me la faut. Au mois de mai, c'est la fête de Marie et de la foire agricole Harry. L'enjôleur qui est Louis Campion l'invite à danser. Eugène est élu conseiller municipal aux dernières élections et de la fête, mais n'y voit aucun mal. Les deux danseurs vivent un instant de fièvre entre polka et mazurka. Beaucoup d'envieux et d'envieuses autour d'eux, mais ils les ignorent. Désormais, Louis va multiplier ses visites et ses hommages. Il l'invite à des balades à cheval dans la campagne, lui fait visiter son domaine de la Huchette, y compris le petit pavillon de chasse où ils partagent leur première étreinte. Certains matins où son mari part tôt pour effectuer ses visites, elle s'élance sur les sentiers de rosée pour rejoindre son amant. Après tout, elle a le temps. La Huchette n'est qu'à 3 kilomètres du bourg. Il s'aime, du moins elle l'aime. Elle le murmure, elle le crie, elle le croit sincère. En revenant vers le bourg, elle ne cesse de se murmurer « J'ai un amant, j'ai un amant !» Alors c'est l'euphorie. L'euphorie de cette année 1844. Mais n'aime-t-elle pas plus l'amour que l'homme ? Louis lui dévoile d'infinis plaisirs, des intensités extrêmes, des sensualités violentes dont elle ignorait la saveur. Pour exalter ce lieu de plaisir qu'est le pavillon de chasse, elle peint sur l'un des murs une fresque champêtre de 4 mètres, montrant une fenêtre ouverte sur la nature environnante. Elle existe toujours. Dans le domaine de la Huchette qui garde les secrets des deux amants. Ce que nous ignorons, c'est la raison pour laquelle les Delamare vont à ce moment déménager. Oh, pas bien loin. Ils traversent la grande rue de Ry et s'installent en face, dans une longue demeure à un étage, devenue aujourd'hui la pharmacie du bourg. Derrière s'ouvre un petit jardin planté d'un saule que Delphine trouve romantique et surtout pratique. Puisqu'elle peut ainsi sortir par ce jardin sans être vue par les voisins, prendre un sentier qui l'amène au vieux calvaire, à un carrefour, puis aux bras et aux désirs de Louis Campion. Dans son euphorie, elle dépense sans compter, offre des cadeaux à son amant. Elle est en affaire avec le colporteur Ray, qui lui vend les fameuses nouveautés de Paris, 1000 fantaisies féminines. Il se montre tellement complaisant. Elle achète et, lui, ne réclame jamais de paiement immédiat. Ah, par contre, l'autre commerçant, l'Auvergnat, qui l'inonde de fanfreluches tentantes, lui présente ses factures. Elle en arrive à subtiliser l'argent déposé par certains patients pour payer une année de soins. Le 16 janvier 1846, le facteur du village dépose, chez les Delamare, une lettre de faire-part à son Brie de Noir. Le docteur Achille Cléophas Flaubert, le maître vénéré d'Eugène, vient de mourir à Rouen, victime d'une septicémie lors d'une opération. Deux jours plus tard, le couple assiste aux obsèques à l'église de la Madeleine à Rouen. Eugène suit le deuil avec les anciens élèves de l'école de médecine. Il doit beaucoup à cet homme qu'on enterre au cimetière monumental. En tant que professeur à l'école de médecine, il a eu tant de patience pour inculquer sa science à ce balourd Eugène, brave, mais sans envergure. N'a-t-on pas dit, quand il a reçu son diplôme, le 10 septembre 1834, qu'il l'avait obtenu grâce à l'intervention de Madame Flaubert? Cette dernière, en effet, est la fidèle amie d'enfance de Madame Delamare, la mère d'Eugène. Gustave se souvient bien de Delamare. Il raconte dans une lettre qu'il l'a croisée quelques mois après son veuvage sur le port de Rouen. Eugène lui a paru peu accablé par le malheur. Il paradait fumant le cigare, en gants blancs, la barbe soignée, le sourire heureux. Mais à cette époque, il avait déjà rencontré Delphine. Voilà qui resserre le cercle. Sans être intime, les familles Delamare et Flaubert se fréquentent de temps à autre. Trois mois après les obsèques, en avril, ils se revoient dans la propriété des Flaubert, à Croissé. Visite de courtoisie. Eugène sait ce qu'il doit à la veuve Flaubert. On prend le bateau pour une balade sur la Seine jusqu'à la Bouille. Les deux mères se racontent des souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et, pour la première fois, Gustave a le loisir d'observer Delphine. Et ceci éclaire notre récit. Il détaille cette jolie brune, gaie, qui dit aimer les danses et les assemblées normandes. Ce qui le charme, c'est sa voix, si douce, qu'il aimerait ramasser tous les mots qu'elle dit. Il ignore encore que de cette femme, il fera un jour l'héroïne de son meilleur roman.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de la vraie Madame Bovary. Elle ne s'appelle pas Emma, mais Delphine. À ce stade du récit, elle n'est pas encore un personnage d'un livre. Mais nous sommes au moment où Gustave Flaubert va croiser son destin et s'en apitoyer au point d'enfer. Un chef-d'œuvre. Quelques mois plus tard, c'est la débâcle financière pour les Delamare. Bon, bien sûr, ils pensent à leurs amis de Croissé. Madame veuve Flaubert est immensément riche. À la table familiale, on parle soudain des ennuis financiers du couple. Par amitié pour la mère d'Eugène, Madame Flaubert propose de les aider. C'est pas la première fois. Les archives du notaire de Ry, maître Leclerc, parlent d'elle-même. Dès 1835, on y trouve trace d'un effet souscrit à M. Flaubert, puis du prêt de 300 francs de sa veuve en 1846. Elle va également les soutenir moralement et affectivement. Ce ne sont donc pas de frêles relations qui relient les Delamare aux Flaubert, mais bien un soutien et une profonde empathie. Que Delphine soit devenue une fashion victime, dépensière, est prouvée aussi par un inventaire notarial. Garde-robe de Madame Delamare. 83 chemises de toile blanche. 83. Mais le couple continue à ployer sous les dettes. Il lui faut rembourser les nombreux prêts souscrits par Delphine auprès de Ray, qui fait aussi office d'usurier. Vu les retards, les sommes sont augmentées du quart pour la commission. Quand Eugène parle à sa femme d'économie, elle le traite de pingre. Elle se précipite chez son amant Louis pour lui demander de la sauver. De l'argent ? Oh ben c'est simple, il n'en a pas. Elle le supplie alors de l'emmener bien loin de ce cauchemar, quelque part, loin de Ry, loin de cette misère, loin d'Eugène. Mais Louis Campion commence à trouver la petite bourgeoise fort embarrassante. D'autant qu'un de ses amis lui a proposé d'aller refaire fortune à Boston, dans une agence maritime où il a des intérêts. Cela lui permettrait de disparaître 2 ou 3 années. D'ici là, pense le mufle. La belle Delphine l'aura oublié. Il va lui mentir, lui faire croire qu'il l'emmène en Italie ou dans un pays qui la fera rêver. La naïve prépare déjà ses malles, en toute discrétion. Nouvelle dépense. Elle paye avec sa montre. Le 12 septembre, les 2 amants devront être à Paris, puis ce sera Marseille, puis ce sera l'Italie, le soleil éternel avec son amant. À aucun moment, elle ne pense à sa fille en nourrice, qu'elle va voir de temps à autre. À aucun moment, elle n'envisage qu'à l'époque, les femmes mariées se trouvent sous la tutelle de leur mari et ne peuvent obtenir de passeport ni sortir de France sans leur consentement. Louis Campion, lui, le sait pertinemment bien. Il s'esquive en toute hâte, prend le large. Soulagé, mais regrettant toutefois la sensualité exacerbée de sa maîtresse. Delphine se révèle insatiable. Elle est devenue femme. Elle a 25 ans. Elle a 25 ans, elle a soudain 100 ans, 1000 ans. Elle croit mourir quand, en plein souper, Eugène lui raconte sans malice que le beau monsieur de la Huchette a confié ses intérêts à Maître Leclerc, qu'il est parti pour un long voyage, a gagné le Havre et s'est embarqué pour les Amériques afin de se refaire une santé. Delphine s'écroule, hurle. Son mari se précipite. On appelle le pharmacien. Elle est prise de convulsions. L'apothicaire Ignard revient avec du vinaigre aromatique. Elle s'évanouit, délire. Une fièvre cérébrale l'envahit. Eugène est désespéré. Elle reste prostrée durant 43 jours. Elle ne parle plus. Pas d'antidépresseur à l'époque, mais des sinapismes et des compresses glacées. Aux dettes abyssales s'ajoute désormais la maladie nerveuse de Delphine. Convalescente, elle essaye d'emprunter ici ou là pour éponger leurs dettes et payer les factures. Elle va d'un banquier à l'autre. Essaie de souscrire un prêt auprès du notaire de Ry, qui tente d'en profiter, trouvant que l'épouse du médecin est, ma foi, un joli brin de fille. Les huissiers viennent déposer leurs plis et préparer l'inventaire de saisie. La réputation d'Eugène en tant que médecin est entachée. De leur maison, de leurs meubles, de leurs objets quotidiens, plus rien ne leur appartient. Elle se sent coupable. Elle l'a ruinée. Elle pleure. Elle supplie. Elle lui demande de la pardonner. Elle pense peut-être qu'il est temps d'en finir. On apporte la nouvelle de la saisie au médecin de Ry, effondré. Que fait alors Delphine? Les sources fiables soudain nous manquent. Si l'on se réfère au roman de Flaubert, on peut penser que Delphine de Lamarre se suicide en avalant de l'arsenic, volé non pas chez le pharmacien, mais dans la propre réserve de son mari. C'est le scénario que retiendra Flaubert. Il reprendra d'ailleurs tous les éléments du vécu de Delphine pour donner vie à son héroïne. Emma est fille de paysan normand. Elle se laisse épouser par l'officier de santé venu soigner son père, ce Charles Bovary, jeune veuf et séduit par sa jeunesse. Elle voit en lui l'homme qui va l'extraire de sa condition morne et modeste. Très vite, elle doit déchanter. Elle croit trouver son salut dans les liaisons avec ses 2 amants, le jeune clerc de notaire Léon, puis le hobereau de Rodolphe. Devenue coquette, elle multiplie les folles dépenses. Peu à peu ruinée, ravagée par la trahison de Rodolphe, elle commet l'irréparable en se suicidant à l'arsenic. Mais dans la réalité, Delphine de Lamarre s'est-elle suicidée? Les registres de l'état civil de Ry ne nous aident pas. Ils nous apprennent seulement que Delphine de Lamarre Couturier est décédée à Ry le 6 mars 1848 dans leur seconde demeure de la Grande Rue à l'âge de 26 ans. On l'enterre dans l'église paroissiale du bourg. Aucun témoignage, aucune rumeur venue de ce village ne nous sont parvenus. Juste quelques ragots évoquant les amants qu'aurait eu Delphine entre 1842 et 1847. De toute évidence, elle a été enterrée à l'église, ce qu'un suicide avéré aurait empêché, surtout à l'époque. Mais il y a probablement eu manipulation. Les notables de Rye ont camouflé son acte fatal en parlant de méprise. Elle aurait ingurgité de l'arsenic, croyant mettre du sucre dans une pâtisserie qu'elle préparait. Ouais. Mais le statut d'élu local de son mari, on se doute que la mairie a étouffé l'affaire. La confusion des poudres blanches est la version qu'utilise Flaubert. Son roman parle très clairement de tromperie. Eugène a pu, de son côté, signer l'acte de décès afin d'éviter le scandale. En effet, la loi autorisait tout officier de santé à rédiger un certificat d'inhumé, habilité qu'il était à classer les décès, à la seule condition que ce soit dans son département, ce qui était le cas. L'argument majeur est la confidence d'un témoin direct, Augustine Ménage, la servante des Delamare, recueillie par un journaliste de Rouen quand elle avait 67 ans. Madame ne voulait pas dire quel poison elle avait pris. Tout le monde pleurait. Alors sa petite fille s'est mise à genoux pour la supplier et elle a dit enfin la vérité. Ah, c'était bien plus malheureux que dans l'histoire. Flaubert s'est même inspiré de ce détail. En effet, au moment le plus tragique de son agonie, il imagine que son héroïne demande « Amenez-moi la petite ». Et la servante arrive avec la petite Berthe dans ses bras. Tournons-nous maintenant vers les archives officielles. C'est le silence. Il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. Mais nous, pour le RH, nous avons enquêté. Nous avons sollicité l'aide et les compétences de deux éminents spécialistes, les docteurs Corinne Charlier et Raphaël Denose, du service de toxicologie du CHU de Liège. D'abord, quels sont les symptômes conformes à un empoisonnement à l'arsenic ? Nausées, vomissements, poux inégales, frissons, sueurs, odeur de la laine, atroces douleurs dans la région abdominale, puis convulsions et coma. Ce sont ceux décrits par Flaubert. Ingéré, l'arsenic dit inorganique est largement distribué dans le foie, les reins, les poumons, les muscles, la peau. N'oublions pas que le romancier avait un frère médecin qui a pu le documenter fort à propos. Quelle quantité a avalé Delphine ? Vu son état dépressif, son égarement, sa confusion, il est manifeste qu'elle ne voulait pas manquer son suicide. Elle a donc pu avaler une grande quantité toxique. A-t-elle agi comme Emma dans le roman ? Saisir le bocal, y fourrer sa main, la retirer pleine de la poudre blanche, se mettre à la manger ? On imagine bien ce geste chez Delphine. A-t-elle avalé 50 ou plus 100 grammes d'arsenic ? Nos spécialistes sont formels. La plus petite dose reconnue mortelle est de 2 mg par kilo. Si on estime à 60 kg le poids de Madame Delamare, on obtient 120 mg à ingérer. En cas d'intoxication massive, la mort survient en quelques heures. L'agonie de Delphine a été plus longue, si l'on en croit sa servante. Une enquête aurait-elle pu être réalisée ? Certainement. Delphine Delamare meurt en 1848. Or, la détection scientifique d'un empoisonnement à l'arsenic est apparue au 19e siècle, exactement en 1836, grâce à la méthode mise au point par le médecin écossais James Marsh. Ce ne sera que plus tard, lors du fameux procès de Marie Bénard, que Frédéric Joliot développera la technique de détection dans les cheveux. Bien entendu, les assassins n'ont pas attendu ces découvertes pour utiliser ce poison. Son usage fut fréquent en raison de son absence de goût. On ne s'étonnera pas de savoir que ce sont les Borgia au XVe siècle qui figurent parmi les premiers à avoir usé de violents toxiques à base d'acide arsénieux. Les marquises de Brinvilliers, les Lavoisin s'y sont mis activement. Tout le monde se souvient de l'affaire des poisons sous Louis XIV. Ce ne seront pas les dernières, puisque leurs mixtures feront la fortune d'autres empoisonneuses et le bonheur de multiples épouses soucieuses de se débarrasser d'un mari gênant. À notre époque, les conjoints sont plus rassurés. La détection analytique laisse peu de chance aux criminels. Mais en cas de mort suspecte, encore aujourd'hui, on recherche le dosage d'arsenic dans le corps de la victime. Pour revenir au tragique destin de Madame Delamare, il faut évoquer la fin de son époux. Ce dernier va sombrer dans une dépression croissante. Il ne survivra guère à la perte de sa femme. Il meurt 21 mois après le suicide de Delphine, en décembre 1849. Maladie foudroyante, accident, empoisonnement, de chagrin, à coup sûr. À l'époque, un habitant de Rye précisera « On trouvera le pauvre Delamarre pendu à une basse branche de pommier. » Quant au beau Rodolphe de la Huchette, son aventure américaine tournera court. Il rentrera en France, ruiné, vivra au crochet d'une danseuse de Paris, tentera de se suicider et finira sa vie à l'hôpital. Telle est la fatalité désolante de la bien belle réelle Madame Delamarre. Delphine appartient au XIXe siècle. Emma Bovary, elle, est de tous les temps. Le génie de Flaubert et les multiples traductions de son roman en ont fait un être vivant de la littérature universelle. Dès la fin du XIXe siècle, on inventera le terme de « bovarisme » pour désigner le sentiment de femmes incapables de réaliser leurs rêves de bonheur et d'existence. Qui fut la vraie Delphine ? Une petite provinciale rêveuse, insatisfaite, qui épouse un homme insignifiant et tombe sur un mufle et un lâche dans ses infidélités. Certains lecteurs ou lectrices accuseront longtemps son double, Emma Bovary, d'être frivole, mauvaise épouse et mauvaise mère. Le regard aujourd'hui a changé. Pierre Michon, agrégé de lettres, confesse qu'Emma Bovary lui a fait mieux croire à la jouissance féminine. « Ce qu'il y a d'irrésistible chez Emma, ajoute-t-il, c'est son énergie à aimer. » L'académicien Jean Dutour a parlé de « la première héroïne moderne qui se prend pour une femme de demain ». Camille Métayer, jeune actrice qui a interprété son rôle dans un téléfilm sur France 2 en 2021, dit « Cette Emma me donnait l'impression de mieux comprendre les femmes de la génération de ma mère ou de ma grand-mère. » Je comprends sa détermination à vivre l'amour de façon absolue. Elle me touche dans son envie d'y croire jusqu'au bout. Et elle termine par ce détail vécu en tant que comédienne. Les douleurs physiques causées par des robes corsetées de 40 kilos empêchaient pourtant de partir de chez soi. Y a-t-il encore des Bovary aujourd'hui ? Il est troublant d'apprendre que des milliers de femmes se rendent encore à Rye, sur la tombe de Delphine Delamarre, pour pleurer leur tristesse sentimentale et leur illusion piétinée. Flaubert semblait l'avoir prévu. Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois, à cette heure même. L'histoire de Delphine Delamarre est encore vraie. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.